JP Burt dans tes oreilles, et ce, pour les 4 prochaines semaines. Je vous le disais tantôt, j'ai tellement eu de fun l'été passé avec les auditeurs de BPM Sport que je me suis dit, oh ouais, je retourne un autre été m'amuser. Parce que, honnêtement, je vous le dis, là, je le fais vraiment par pur plaisir. C'est le fun faire de la radio. Puis c'est le fun faire de la radio avec vous et pour vous. Parce que les gens, là, les amateurs, vous êtes tellement gentils, tellement le fun, tellement impliqués. Puis l'été, c'est le fun aussi. C'est relax. On est loin de la folie du Canadien. Tu sais, on n'est pas dans la routine. On peut parler de ce qu'on veut. Il fait beau. Il fait soleil. On est sur le bord de la piscine. On ouvre la radio. Puis on parle de balle. Parce que moi, vous savez comment j'aime ça de parler de balle. Et un des gars avec qui je travaille est un des plus grands connaisseurs de baseball. Je vous le dis, là, j'ai fait une coupe de match avec lui cette année à TVA Sports. C'est une véritable encyclopédie là, qui peut te dire, hey, lui, ça avait été un choix de 7e tour des Angels en 2003. Là. C'est mon chum François Paquette que je m'en vais retrouver au bout du fil. Salut, bon Frank!
Salut JP, ça va bien?
Très bien, toi-même?
Oui, merci.
Hey, je t'ai écouté hier à TVA Sports pour la description du match entre les Jays et les Angels. Tu sais, quand on parle d'un club dans zone là, qui trouve des façons de gagner ou des façons de plus perdre, j'ai le goût de dire, c'est vraiment ça les Jays ces temps-ci, là?
Aucun doute, parce que je regarde le dernier séjour à la maison, c'était la première fois dans l'histoire des Jays qu'on réussissait à balayer une série de 7 matchs à la maison. Puis je pense honnêtement que l'an passé, le club des Jays a gagné seulement 74 matchs. Puis je pense que dans une semaine comme celle-là, on n'aurait pas gagné 3 matchs par un point face aux Angels en fin de semaine. Rappelle-toi du match contre les Yankees, ils ont emmené 8-0, qu'ils ont remonté la pente. C'est le genre de match que les Jays auraient probablement perdu l'année passée. C'est sûr qu'il y a toujours un facteur chance. Il y a quelques bons qui vont de ton côté, quelques décisions qui vont de ton côté, mais présentement... tout va pour le mieux pour les Jays. Ça reste quand même un club excessivement fragile, c'est-à-dire que t'as pas beaucoup de profondeur, t'as pas beaucoup d'espoir de premier plan qui s'en viennent, mais comme saison inespérée, là, c'en est vraiment une, parce que par rapport au club de 74 victoires de l'an passé, oui, on s'est amélioré à certaines positions, oui, on peut penser à un beau Bichette qui est en santé, mais il y a pas beaucoup de gens qui auraient prédit qu'à une semaine du match des Étoiles, les Jays seraient au premier rang de la section Est. Il n'y a pas grand monde qui aurait dit que les Orioles seraient derniers non plus. Fait que ouais. C'est vraiment une saison très, très surprenante, surtout pour la division Est de la Ligue américaine.
Et rappelle-toi ce qu'on disait en début de saison, parce que les Jays n'avaient pas connu un très, très bon, un très, très bon début de campagne. J'écoutais les amateurs, puis même les rumeurs circulaient. Là, est-ce que ça sent la fin pour John Schneider? Est-ce qu'il est trop, tu sais, il est temps qu'on se départisse là, au deuxième étage d'un Shapiro puis d'un Ross Atkins? Alors, le vent a vraiment tourné de bord, puis a même sauvé des jobs finalement.
Oh, aucun doute là-dessus. Puis moi, personnellement, quand la saison a commencé, j'étais plus dans le camp. Si les Jays jouent à peu près le même baseball que l'année passée, moi, je pensais au stade où on est là au début du mois de juillet, on sera en train de jaser de qu'est-ce qu'on va obtenir en retour de Bichette et Guerrero. Moi, c'était vraiment ça ma réflexion pour dire il faut repartir un peu la machine. On n'a pas très, très bien repêché, à part l'an passé. Là, on n'a pas très, très bien repêché. On a échangé beaucoup de jeunes. Les années où on a participé aux séries, on a été éliminés très rapidement. Fait que là, moi, je me disais, on est peut-être rendu là, mais quand on a signé Vladimir le gros contrat de 500 millions, je pense que ça a déjà donné un petit regain de vie au niveau de l'enthousiasme des amateurs. Puis je pense que c'était déjà une bonne nouvelle qu'on annonçait, puis ça nous disait peut-être qu'il y aura un petit peu plus de positif cette année. Puis les 34 premiers matchs des Blue Jays cette année, il y avait une seule série, celle contre les Nationals de Washington, où c'était une série contre un club qui n'avait pas joué pour 500 l'année passée. Puis c'était un peu le baromètre pour moi, me dire on va voir à peu près où ils vont être. Puis les Jays ont joué pour 500 durant cette séquence-là, ce qui était quand même excellent. Puis à partir de là, on a joué du baseball un peu plus intéressant, même si Anthony Santander arrive, frappe pas beaucoup, Dalton Varsho est blessé, puis il y a beaucoup de Max Scherzer est blessé, quelques joueurs qui sous-performent. Et finalement, dans les disons dans le dernier mois, les Jays ont joué du baseball extraordinaire. Et surtout, on a joué, puis je sais pas combien de fois on en a parlé, on a commencé à bien jouer de la petite balle. Ben, c'est un club qui est toujours... T'as l'impression que c'est un club qui joue toujours pour le circuit de 3 points. Mais quand la saison va finir, je pense que les Jays n'auront aucun frappeur de 30 circuits, mais peut-être 4 ou 5 qui vont en avoir 20. Puis là, à partir de là, tu dis, il faut créer des points et non pas attendre le circuit de 3 points. Puis je pense que dans le dernier mois, là-dessus, on l'a très, très bien fait du côté des Jays.
Ben écoute, Frank, tu me mets la table pour mon prochain sujet. Puis comme tu le sais, on ne s'est pas parlé depuis, mais je reviens du Japon, hein?
Oui.
Puis j'ai eu la chance de voir 3 matchs de baseball de la Ligue du Japon, OK? En 3 matchs, je pense que j'ai vu 1 circuit, 15 amortis, si c'est pas plus, OK? Tiens, tu parles de petites balles, là. Puis écoute bien la statistique des Jays, OK? On a déposé l'amorti 20 fois cette saison. On est à égalité au premier rang au baseball majeur à ce chapitre. Des coureurs qui viennent marquer du 3e but, on l'a fait rentrer à 54,6%. C'est également un sommet au baseball majeur. Et lorsqu'on a un coureur au 2e, on l'a fait rentrer 31% des fois, ce qui est bon pour la 2e place du baseball majeur. Alors, quand tu dis qu'on joue de la petite balle, là, en d'autres mots, on a lâché l'ordinateur, là, puis les statistiques avancées, puis on joue le livre. Là.
On joue le livre, puis je pense qu'il y a un des gars qui mérite beaucoup de crédit pour ça, c'est le nouvel instructeur des frappeurs, David Pumpkins, parce que dans les dernières années, avec Guillermo Martinez, ça fonctionnait pas du tout. T'sais, j'avais toujours l'impression que Guillermo Martinez, c'était un gars qui pouvait te dire, écoute, ton coude est trop bas, ton pas est trop haut, il y a quelque chose qui fonctionne pas dans ton élan. Mais on n'avait pas une mentalité de situation. Puis c'est ça, je pense, le plus important, c'est de dire, c'est toujours une question de baseball, de situation. Il y a des fois où tu peux y aller pour la longue balle, mais l'amorti sacrifice, le court et frappe, faire avancer un coureur, même si c'est pas un amorti, comme tu mentionnais, faire marquer un coureur du 3e moins de 2 retraits, c'est des petits détails. Puis c'est même un exemple dans le match d'hier, 3 balles aucune prise à David Schneider qui connaît vraiment pas une grande saison, mais situation où tu dis ça va être le meilleur lancer de ma présence, tu frappes un coup sûr à 3 balles aucune prise, puis fait marquer le point qui fait la différence. C'est des petits détails comme ça qui, en bout de ligne, font en sorte que les Jays sont rendus quoi 14 matchs au-dessus de 500. Puis c'est des choses qu'on ne faisait pas du tout dans les dernières années. Fait que la mentalité a un peu changé. C'est sûr que ça reste un club quand même où on marque pas nécessairement une tonne de points par rapport aux équipes aux meilleures attaques. Puis on en donne quand même beaucoup. Tu sais, les Jays sont seulement plus 12 dans le différentiel. Alors, t'es 14 matchs au-dessus de 500, mais t'es seulement plus 12. Alors, il y a beaucoup de matchs d'un seul point qu'il faut absolument que tu gagnes, ce qu'on faisait pas dans les dernières années. Puis c'est les petits détails. Tu regardes en fin de semaine, c'est le plus bel exemple. Vendredi soir, Ernie Clement dépose un amorti en 10e. On lance la balle au champ droit. Tu gagnes le match de cette façon-là. Dans le match de samedi, on a raté une tonne de chances, mais en 11e, c'est Addison Barger qui frappe un coup sûr après 2 retraits qui donne la victoire. Puis hier, Barger, tu l'amènes par mesure défensive, puis il fait 2 catchs extraordinaires au 3e but en 9e manche qui font la différence. Fait que vraiment, là, présentement, les astres sont alignés pour les Jays. Puis tu regardes le JP la semaine qui s'en vient, il reste une semaine avant la pause du match des étoiles. Les Jays s'en vont à Chicago à partir de ce soir contre les White Sox. Et en fin de semaine prochaine, contre les A's à Sacramento. Alors, tu affrontes les 2 pires clubs de la Ligue américaine. Il faut absolument que tu gagnes 4, si ce n'est pas 5 matchs de ces 6-là. Et pendant ce temps-là, tu regardes, exemple, les Yankees.
Ben oui.
Les Mariners et les Cubs, c'est quand même 2 très bonnes équipes. Puis les Rays sont sur la route, ils s'en vont à Détroit et à Boston. Alors, tu as un calendrier très favorable. Alors, c'est pas impossible que tu arrives au match des étoiles la semaine prochaine puis que tu aies une avance encore plus confortable parce que la deuxième moitié de saison risque quand même d'être assez complexe avec, comme je dis, pas beaucoup de profondeur chez les Jays, des bonnes équipes qui poursuivent. C'est important de continuer de jouer du bon baseball puis de finir sur une note positive avant qu'on arrive au match des étoiles.
Ben justement, parce que les Yankees, là, je sais qu'ils l'ont emporté hier, mais samedi, ça n'a pas été facile. Défaite de 12-6 face aux Mets. Le timing était bon. T'as la séquence des Jays, puis du côté des Yankees, ça va un petit peu moins bien par les temps qui courent.
Oui, puis écoute, c'est une semaine horrible pour les Yankees parce qu'au-delà du balayage puis du fait qu'on a face aux Jays, qu'on a perdu 2 des 3 matchs face aux Mets, Clark Schmidt qui a été blessé jeudi contre les Jays, on annonce opération de type Tommy John. Alors non seulement il lancera pas cette année, mais probablement qu'il lancera pas l'année prochaine non plus parce qu'habituellement c'est 12 à 18 mois. T'as déjà perdu Garrett Cole, Lewis Hill est pas revenu encore, puis tu as quelques joueurs qui sous-performent aussi du côté de New York. Fait que ça crie là, présentement parce que les Yankees jouent pas du très, très bon baseball. Ça reste quand même une équipe talentueuse qui va quand même probablement te donner du fil à retordre. Puis c'est pas impossible qu'ils rejoignent les Jays à un certain moment donné. Puis les Rays, eux, le gros problème qu'ils vont avoir, c'est le calendrier. Parce qu'étant donné qu'on joue au stade de George Steinbrenner, où évidemment, il n'y a pas de toit comme c'est le cas au Tropicana Field.
Ah, il pleut tout le temps l'été.
Oui, puis c'est ça. Fait qu'on a fait en sorte qu'on a joué, je te dirais, environ 70% de nos matchs à la maison. Alors, deuxième partie du calendrier, on va jouer énormément de matchs sur la route, puis ça, ça va être très difficile pour les Rays. Ça reste un très bon club. Moi, les Rays, on le sait, c'est pas ce qu'il y a de plus spectaculaire. Il n'y a pas une tonne de gros noms, mais c'est un club qui est très efficace, qui a connu une très, très bonne séquence avant de perdre 2 matchs sur 3 en fin de semaine au Minnesota. Fait qu'il n'y a absolument rien de terminé, mais comme on se disait, c'est qu'à ce stade-ci, si on m'avait dit que les Jays seraient 14 matchs au-dessus de 500, qu'ils seraient au premier rang de la section, j'aurais jamais cru. Puis on va espérer que ça se poursuive parce qu'honnêtement, tu sens un engouement pour les gens qui aiment le baseball. Moi, j'ai des amis qui disaient « Oh, je n'irai pas à Toronto cet été, c'est moins intéressant. » Puis là, soudainement, oui, ben, je pense que je vais aller faire un petit tour.
Ben oui.
En fin de semaine, il y a eu une tonne de Québécois qui sont allés voir les Jays. Il y en a plein qui vont le faire cet été. Puis le fait qu'on gagne des matchs, qu'on joue du baseball spectaculaire, ça ajoute vraiment à l'engouement des partisans au niveau des Blue Jays de Toronto.
Puis tu parlais des Red Sox. M'a dire en tant que fan de l'équipe, j'ai hâte que Yoshida puis j'ai hâte que Bregman revienne au jeu parce que là, commence à m'en ennuyer un petit peu, là.
Oui, bien, moi, écoute, j'y crois encore aux Red Sox dans le plan qu'on a fait. Je sais qu'évidemment, la transaction Rafael Devers, on verra dans 5, 6, 7 ans comment ça va se dérouler puis comment on va analyser cette transaction-là. Mais je veux dire, quand tu regardes les Red Sox avec Roman Anthony, avec Marcelo Meyer, qui sont deux excellents jeunes joueurs, tu mentionnais les blessés qui vont revenir bientôt. Le gros problème qu'on a, c'est sur la butte. Il n'y a aucun doute là-dessus. On est très déçus de Walker Buehler. On manque de profondeur. Fait que je pense que les Red Sox, ce sera peut-être pas pour cette année, mais dans un avenir rapproché, je pense que la base est très, très bonne. C'est juste que la façon dont on a fait les choses, il y a beaucoup de gens qui ont dit, est-ce que la transaction Devers, c'est la nouvelle transaction Mookie Betts? Je ne pense pas, parce qu'on a quand même si on n'a pas obtenu assez à mon goût, je pense qu'on a obtenu quand même d'excellents jeunes joueurs, mais c'est un club, c'est un peu fâchant, c'est un partisan des Red Sox, c'est habitué de dépenser de l'argent, puis là on dirait que des fois on coupe, puis on essaie de pas trop dépenser d'argent, puis de faire en sorte que de rester dans un budget un petit peu plus restreint, mais je pense qu'on a très très bien repêché dans les dernières années, on a d'excellents espoirs qui s'en viennent, puis le fait aussi que dans la transaction qu'on a eue avec les Giants, on a obtenu deux très bons jeunes, dont James Tibbs, qui est un gars qui a été repêché en première ronde l'année passée. Je pense que d'ici quelques années, on va aimer la transaction, mais c'est quand même une saison frustrante où les Red Sox ont de la difficulté à jouer pour 500. Mais en fin de semaine, ils sont allés balayer les Nationals à Washington. Ils ont joué peut-être leur meilleur baseball de la saison. Fait que j'ai hâte de voir comment ils vont se comporter. Ils sont pas encore sortis de la course au meilleur deuxième. Ils sont pas encore là, mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour convaincre les partisans que c'était le meilleur geste à faire d'échanger Rafael Devers avec tout ce qui s'est passé du troisième et du premier.
Ouais, on s'est débarrassé, si tu veux mon opinion, là, on s'est débarrassé d'une distraction dans le vestiaire. Alors ça, je pense que c'est une bonne chose pour les Sox. Juste en finissant, puis écoute, l'horaire fait en sorte que je fais pas mal de matchs des Dodgers cette année à TVA Sports. Alors c'est une équipe que je suis beaucoup, mais moi, dire, il n'y a rien qui indique un ralentissement du côté de Shohei et de son équipe.
Non, ça reste, écoute, sur papier, c'est le club le plus talentueux, il n'y a aucun doute là-dessus, mais je vais te dire qu'en fin de semaine, c'est peut-être la première fois qu'on a vu les Dodgers un petit peu plus fragiles face aux Astros, puis tu sais que les partisans de Los Angeles détestent les Astros parce qu'en 2017, l'année des vols des signaux, c'était les Dodgers qui avaient été victimes des Astros en série mondiale en 7 matchs, fait qu'en fin de semaine, on a hué Jose Altuve à tout rond, puis on s'est gâté, mais les Astros ont gagné 18-1 vendredi, ont gagné 6-4 samedi et hier ont gagné 5-1. Ils ont complètement dominé les Dodgers pendant une série de 3 matchs. Sauf que dans le cas des Dodgers, tu sais, la liste des blessés est tellement garnie. Puis en fin de semaine, on disait, Blake Snell s'en va en réhabilitation. Tyler Glasnow a commencé sa réhabilitation. Alors même s'ils ne faisaient pas une seule transaction d'ici la fin du mois de juillet, ils ont tellement de monde sur leur liste des blessés que ça devient et ça reste quand même l'équipe la plus talentueuse, les champions en titre et le club à battre. Fait que j'ai hâte de voir comment les choses vont se dérouler. Puis Dave Roberts a mentionné en fin de semaine qu'avec Shohei Ohtani aussi, on va être très, très, très prudent. Il n'y aura probablement pas de départ de 5 ou 6 manches cette année. Ça va aller à l'an prochain. Mais tu sais, avec Ohtani qui s'en vient, avec Yamamoto qui lance bien, avec le jeune Sasaki qui malheureusement est blessé, puis je ne sais pas si on va le revoir cette année, ce club-là est quand même bien équipé pour un bon petit bout de temps. Puis ça, tu regardes tout ça en disant, Mookie Betts n'a pas une grosse saison, il est capable d'avoir une meilleure saison que ça. Tu as quelques joueurs qui vont performer beaucoup mieux que ce qu'ils donnent présentement. Donc, ça va être tout un défi pour n'importe qui va affronter les Dodgers. Puis, tu as juste regardé les cotes, peu importe, où les gens font des paris. Les Dodgers sont largement favoris.
Ben oui.
Mais personnellement, moi, j'aime le changement. J'aime quand il y a de la nouveauté. Puis j'espère qu'on aura une autre série mondiale que Yankees-Dodgers comme l'an passé, mais c'est difficile à prédire à ce moment-ci de la saison.
Bien, mon ami François, je te remercie pour ton temps. Est-ce que tu fais quelques matchs à TVA Sports cette semaine?
Bon, moi, j'y vais le week-end prochain pour, entre autres, deux matchs des Jays qui vont être à Sacramento, donc vendredi très tard, 10h, puis dimanche après-midi. Et samedi, on fait le match des futurs espoirs du baseball majeur. À 16h, puis ça, écoute, moi j'adore parce que je découvre des joueurs ou des noms que tu entends souvent, mais que tu n'as pas la chance de voir jouer. Puis je vais juste mentionner deux noms pour le match en fin de semaine. Marcus Grissom Jr. C'est un lanceur, d'ailleurs, dans son cas, lui, on va le voir. Et l'autre, il s'appelle Durangelo Singe. C'est un lanceur des Mariners de Seattle. Puis pourquoi j'en parle? C'est que c'est un lanceur ambidextre. Il lance des deux mains, puis c'est pas un spectacle là, de dire qu'il n'est pas capable de lancer d'un bord. Il lance mi-90 et de la gauche et de la droite. Puis j'ai bien hâte de le voir à l'œuf, ça a l'air que c'est tout un phénomène. Fait que ça, c'est samedi 16h, on va voir ce match-là sur les ondes de TVA Sports.
Hey, toi qui es une encyclopédie, c'est comme ça que je t'ai présenté. Comment il s'appelait déjà l'ancien lanceur des Expos qui était en bidex, qui avait changé sa mythe de bord, là?
Greg Harris,
c'est ça.
Mais ça, c'était plus un spectacle, parce que du côté gauche, c'était plus difficile, mais ça restait quand même assez spectaculaire ce qu'il avait réussi. Mais
Greg Harris.
Il avait un gant à 6 doigts.
C'est ça, il y avait un gant à bidex, c'est ça, exact. Hey, t'es bon, mon Frank. Un gros merci pour ton temps, puis on s'en parle très bientôt. Ou on se croise à TVA.
Salut, JP.
Salut,
merci beaucoup.
Alors, François Paquette, il est peut-être un peu moins connu là, que les Denis Cazavant, Mark Griffin et compagnie, mais je vous le dis, là, Frank est vraiment un très grand connaisseur de baseball.